Radio Okapi. Le journal vous est présenté par Lievin Mbwinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bon réveil à vous qui nous suivez déjà sur la radio de la paix. D'abord les titres, l'actualité c'est encore le prochain dialogue direct entre Kinshasa et le M23 FC à Luanda. Dans ce journal, nous chercherons à savoir quelles sont les probables matières sur lesquelles peuvent porter ces négociations, les exigences de toutes les parties, donc tentative de réponse dans un instant. Nous parlons aussi santé dans cette édition. Deux projets pour lutter contre le monkeypox et les épidémies en RDC. Ils sont lancés par l'Union européenne pour appuyer l'État congolais à la riposte contre ces épidémies. Leur coût, 20 millions de dollars américains. Nous allons les découvrir. Ouverture ce jeudi du sommet extraordinaire de la SADC, au menu la mission de la SAMI DRC et le rôle qu'elle entend jouer face à l'évolution de la situation dans le nord et sud Kivu. Nous en parlons avec l'analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, Christian Moleka est notre invité. Bonjour et bienvenue à vous. Un tournant décisif se profile dans la quête de paix en RDC. Des discussions directes entre le M23 et le gouvernement congolais vont débuter le 18 mars 2025, date fixée par le gouvernement angolais. Ces pourparlers vont intervenir après la rencontre à Luanda entre les présidents Joao Lourenço et Félix Tshisekedi du Congo-Kinshasa. Mais l'opinion publique s'interroge désormais sur l'objet précis des négociations, tant de réponse avec Askin Zibia Tayoro.
Il apparaît clairement que les deux parties font face à un véritable casse-tête devant aplanir les divergences lors des pourparlers. Le gouvernement congolais se trouve confronté à trois niveaux de problèmes. D'abord, le M23 exige depuis toujours le respect des accords de 2013, notamment sa réintégration dans l'armée, sa transformation en mouvement politique et le retour des réfugiés en provenance du Rwanda et de l'Ouganda. Ensuite, le Rwanda, le président Paul Kagame, qui apporte un soutien militaire au M23 continue de réclamer la neutralisation des FDLR sur le sol congolais. Afin l'abcès de Corneille Nanga, cette rébellion est le nouvel acteur dans le conflit. Souhaite également participer aux négociations en avançant les revendications liées à la mauvaise gouvernance du pays. Par ailleurs, le gouvernement congolais a toujours affirmé qu'il ne pouvait pas tolérer la réintégration des rebelles dans l'armée régulière, car cette pratique de mélange a considérablement fragiliser le FARDC au niveau de chaîne de commandement. En définitive, il reviendra aux deux parties de faire d'énormes concessions pour parvenir à une paix durable en RDC.
Sur le terrain, Goma reste victime des incidents sécuritaires et ils ne font que se multiplier dans les différents quartiers périphériques de cette ville du Nord Kivu, notamment dans sa partie nord. Il faut reconnaître aussi que ces enlèvements et meurtres ne font qu'accentuer la psychose dans les villes occupées par les rebelles. Ce n'est pas tout, la population locale déplore le fait que cette situation menace même l'économie des ménages de Goma, Nirangongo et Bukavu. Il suffit en effet qu'on trouve un groupe de personnes, plus souvent des jeunes, en train de discuter ou prendre un verre dans une boutique ou un débit de boisson pour que ces derniers se voient ramassés et emmenés de force dans une formation militaire à Rumangabo, dénonce plusieurs sources. Grâce Hamzati nous en dit plus.
À Goma, plusieurs sources rapportent qu'une femme vendeuse de boissons a été interpellée mardi avec ses clients par les rebelles du M23 et amenée vers une destination inconnue. Les faits se sont déroulés vers le rond-point Kihisi à Munigi. La famille de Kaindo Guilaine, mère de 6 enfants, s'inquiète de son sort ainsi que de celui de ses clients. Un autre enlèvement signalé ce mercredi est celui d'une mère de famille avec ses 8 enfants, dont un nourrisson au quartier Kiziba 2, groupement Mouja. Honorine Ouassé et ses enfants seraient pris à leur domicile et amenés par des militaires accusés sans preuve de collaborer avec les Wazalendo, rapportent les voisins. Signalons qu'une jeune fille a été tuée mardi en plein jour à Kilijiwe, vers Turunga, par des bandits armés, après un braquage dans une maison de commerce. Le lundi, la ville s'est réveillée dans l'émoi lorsque le corps d'un homme a été découvert dans une fosse septique. La victime, nouvellement mariée, a été tuée par des inconnus. Par ailleurs, plusieurs personnes témoignent que pour le moment, quitter Goma ou Bukavu pour se rendre dans des zones plus sécurisées devient difficile. C'est tout un procès auquel est soumis un voyageur aux frontières du Rwanda, mais aussi aux barrières instaurées vers Kiwanja dans les Rutshuru et Mubambiro dans les Masisi, affirment des témoins. Même exercice au port de Goma et de Bukavu.
Nord Kivu encore avec ce sinistre, c'est l'incendie d'au moins 200 maisons en paille et quelques-unes en tôle hier mercredi dans le village Kassali par les rebelles du M23 selon des sources sur place. Cette contrée est située à cheval entre les groupements de Tongo et Bambo à la lisière du parc national des Virunga à 9 km du poste de patrouille de Mabenga. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée heureusement. Cependant, la population a pris fuite vers Kirumba, indique encore nos sources. Certains notable du coin renseigne que cet incident n'est pas le premier du genre dans cette zone agricole de Kazaroo. À plusieurs reprises, les rebelles ont opéré des représailles envers la population locale accusée de cacher des éléments FDLR, déplore-t-il. Nord Kivu, sur un autre aspect, un élu de Massissi appelle le gouvernement et ses partenaires, la MONUSCO et l'UNICEF, à s'impliquer en faveur d'un couloir humanitaire. Cela pour permettre la tenue effective de différentes épreuves certificatives dans les provinces éducationnelles des zones occupées par les rebelles. Ayo Bangira Safari l'a dit dans une correspondance du 7 mars adressée au ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Pour cet élu de Massissi, la population a déjà fait preuve de résilience malgré la situation sécuritaire précaire. Les élèves, parents et enseignants méritent un accompagnement particulier pour ne pas réduire à néant leurs sacrifices et compromettre l'avenir de ces enfants, souligne le député Ayo Bangira Safari dans cet extrait choisi par Sifamagoro.
C'est depuis 3 ans qu'il y a une guerre au Nord Kivu, mais les élèves, les enseignants, les parents, se sont donnés en fait que les élèves puissent étudier. Et ce n'est pas maintenant à la veille des examens qu'on viendrait interrompre les processus. Autre chose aussi, ce n'est pas la première fois qu'il y a la guerre au Nord Kivu, même lors de la période du RCD, lorsque le pays était partitionné, il y avait examen d'État. Même à l'époque du CNDP, il y avait examen d'État. Tout ça en ouvrant des couloirs humanitaires, en partenariat avec l'UNICEF, la MONUC à l'époque, qui est actuellement la MONUSCO, il y a donc la possibilité de sauver l'année scolaire. Mais c'est aussi, en quelque sorte aussi, donner le flanc à ceux-là qui veulent faire avancer des projets de balkanisation en montrant que la partie Est est déconnectée du reste de la République. Le gouvernement a le devoir d'assurer la défense des droits à l'éducation pour chaque Congolais, peu importe sa résidence.
Rappelons que dans un communiqué du 6 mars 2025, l'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale a annoncé qu'à la suite de la situation que connaît la partie est de la République, les examens préliminaires ne seront pas administrés dans les provinces éducationnelles Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et Sud Kivu 3. Une session spéciale devrait être organisée dans ces provinces dès que les conditions sécuritaires seront plausibles, indique ce communiqué. Guerre de l'Est de la RDC avec cette manifestation des femmes des associations féminines à Beni. Ces militantes ont fixé hier mercredi des calicots porteurs de messages au niveau du principal rond-point du chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Sur ces calicots, on pouvait lire « Nous voulons la paix, l'unité fait la force ». De cette manière, les femmes veulent faire entendre leur voix au plus haut niveau, attirer l'attention sur la situation sécuritaire volatile dans l'Est du pays. Ruth Sabouni, chef du bureau genre, Famille et Enfants, revient sur cet acte particulier en lien avec le mois de la femme. Elle est au micro de Guylaine Kassassia.
Nous sommes toujours dans la continuité du mois de mars. Aujourd'hui, c'est une deuxième activité après la première qui a été effectuée le 8 même. Maintenant, nous nous sommes dit que pour faire passer bien nos messages, il faudrait que nous venions maintenant à la date de ce jour les placer au repos pour que toute la communauté qui fréquente ces lieux voit ce que veulent les femmes de Beni et en général la province du Nord Kivu. L'essentiel est dans tous les messages possibles, si vous les lisez, vous allez trouver les mots que l'amour, unité. Nous voulons à ce que toute la communauté s'unisse pour que nous puissions mettre nos efforts ensemble pour le rétablissement de la paix en RDC. Après l'activité de dépôt des messages, la suite c'est la sensibilisation communautaire, donc des sensibilisations de masse. Nous allons cibler des points chauds de la ville dans lesquels nous allons mener des différentes sensibilisations avec différents thèmes pour édifier la communauté par rapport à ce qui concerne la commémoration du 8 mars.
Sur un autre chapitre, deux projets d'appui à la riposte contre le monkeypox et des épidémies en République démocratique du Congo. Ils ont été lancés par l'Union européenne hier mercredi à Kinshasa. Coût de ces projets, 20 millions de dollars américains. Plusieurs provinces du pays vont bénéficier de ces projets, notamment le Sud Kivu et l'Équateur affectés par la variole simienne. Ronlin Tibonera nous en donne de plus amples détails.
Mise en œuvre par l'UNICEF et l'OMS d'un côté et de l'autre par les consortiums Malteser International et ULB Coopération, ces deux projets visent principalement à contribuer à la lutte contre l'épidémie de Mpox en RDC. Ils pourront également élargir leurs actions en renforçant globalement les systèmes de santé afin de mieux répondre aux éventuelles futures épidémies, indique un communiqué publié par l'Union européenne. L'Union européenne et ses États membres ont engagé cette action pour aider la RDC à faire face à cette épidémie, mais surtout pour renforcer ses structures des ripostes aux crises sanitaires en cas d'épidémie. La première réaction et la plus efficace doit venir des structures publiques, a déclaré Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Pour rappel, plus de 322 300 doses de vaccins contre le Mpox ont été offertes à la RDC par l'Union européenne depuis 2024. Ce soutien s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la riposte du pays.
Un autre projet, c'est celui axé sur l'amélioration de la protection, de la prévention et de l'accès aux soins des personnes vivant avec l'albinisme en Afrique subsaharienne. Un atelier de présentation de ce projet s'est tenu hier mercredi à Kinshasa à l'initiative de la Fondation Pierre Fabre en partenariat avec l'Agence française de développement. Ce projet qui sera exécuté pendant 4 ans, soit de 2023 à 2026, vise plusieurs objectifs dont la promotion des droits fondamentaux des personnes atteintes d'albinisme. C'est ce que nous dit Plotin Yambenga dans ce reportage.
Les représentants de plusieurs associations des personnes vivant avec handicap ont pris part à ces assises ouvertes à Fleuve Congo Hôtel par la ministre déléguée, ministre des PVH et autres personnes vulnérables. Irène Sambo a rappelé que le gouvernement fournit des efforts pour non seulement promouvoir les droits des PVH, mais aussi faciliter leur intégration en société.
Au niveau du ministère, il y a une initiative qui mérite d'être citée ici, c'est la mise en place du Fonds national d'appui à l'autonomisation et à l'accessibilité des personnes avec handicap.
Pour sa part, Claire Janine, représentante pays de la Fondation Pierre Fabre, revient sur les objectifs majeurs que poursuit le projet APASAS.
Et d'améliorer la documentation disponible sur l'albinisme afin de disposer d'informations évidemment précises et actualisées, et la prise de décision ainsi que l'allocation de ressources dédiées.
Quelques bénéficiaires n'ont pas hésité de dévoiler leurs attentes.
Alors c'est une histoire qui vient à point nommé, je suis très satisfait d'y avoir participé.
Mes impressions sont bonnes, accueillir les partenaires tels que Pierre Fabre.
J'ai été vraiment émerveillée de voir les présentations de chaque intervenant et surtout l'organisateur et l'initiateur de cette activité.
Reconnue d'utilité publique depuis 1999, la Fondation agit pour améliorer l'accès aux médicaments et aux soins de qualité des populations des pays du Sud.
Justice à présent et direction le Bandundu. Il y a eu démarrage hier mercredi du procès public contre le présumé criminel Mwatu Edi Manikola, alias Ferré et consorts. Ils sont poursuivis de plusieurs infractions, dont association des malfaiteurs, vol avec armes. C'est le tribunal militaire garnison de Bandundu, Bagata et Maïndombe, siégeant en matière répressive au premier degré, qui a organisé cette audience à la tribune centrale du camp Onatra, au chef-lieu du Kwilu. C'était en présence notamment du représentant du gouverneur de province, des autorités politico-administratives, sécuritaires et d'une foule nombreuse. Plus d'explications avec Irène Mbomaluzolo qui assistait à cette audience.
Pour cette première audience publique foraine opposant les ministères publics au prévenu Mwatu Edi Manikola, alias Ferré et consorts, le tribunal militaire de garnison de Bandundu, Bagata et Maïndombe a procédé notamment à l'identification des prévenus au nombre de 11, à l'instruction des dossiers, à l'audition des déclarations des victimes qui ont chargé Ferré, puis à la confrontation des victimes à leur bourreau. Ferré, présenté par la population de Bandundu comme étant un criminel, est poursuivi pour les chefs de plusieurs infractions, entre autres association des malfaiteurs, vol à main armée, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, puis la dissipation des munitions de guerre. Dans son actif, ce prévenu a eu à voler entre août 2020 à janvier 2025 plusieurs vaches, des produits agricoles, des motos et tant d'autres biens, selon les sources proches du tribunal. Ces mêmes infractions sont aussi mises à charge des autres prévenus, membres de la bande que dirige ce présumé bandit. La L'affaire a été suspendue et renvoyée à ce jeudi. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Notez aussi que 12 prévenus comparaissent depuis ce mercredi devant les juges devant la cour militaire de l'Ituri qui siège en audience foraine à Tchomia, entité située à environ 60 km de la ville de Bounia dans le territoire de Djougou. Les prévenus sont cités dans plusieurs cas de meurtre, pillage, déportation des biens des civils dans cette région secouée par l'activisme de groupes armés. Les activistes des droits humains et acteurs de la société civile locale plaident pour un procès équitable en vue de lutter contre l'impunité observée après des violations graves des droits de l'homme. Nous y reviendrons.
Actualité internationale.
Le CAP accueille le 8e sommet Union européenne-Afrique du Sud, conjointement présidé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa. La réunion devrait être marquée par un renforcement du partenariat entre Bruxelles et Pretoria dans un contexte de grande tension internationale, notamment avec les États-Unis.
L'invité.
La communauté économique des pays d'Afrique australe ouvre ce jeudi son sommet extraordinaire qui devrait tabler éventuellement sur la mission de la SAMI DRC et le rôle qu'elle entend jouer face à l'évolution de la situation dans le nord et sud Kivu. Invité de Radio Kapi, Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, souhaite qu'avec l'évolution sur terrain, les troupes de la SADC s'engagent à une mission de sécurisation des populations en mettant en place un couloir humanitaire. Il juge également plus complexe la dynamique SADC-EAC dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'est du pays où la population attend les réponses concrètes et rapides. Christian Moleka s'entretient ici avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Christian Moleka.
Bonjour.
La communauté économique des pays d'Afrique australe, SADC, ouvre son sommet extraordinaire ce jeudi 13 mars. Quel est le crédit que vous accordez à cette rencontre par rapport à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC?
La crédibilité, ce sera l'avenir de la SAMI-RDC dans un environnement qui se dégrade, se détériore. Quelle sera la capacité de cette organisation, notamment via la SAMI-RDC, à continuer à jouer un rôle, notamment militaire sur terrain.
Au regard de la situation sur terrain, quelle est l'importance que vous donnez à ces sommets après la chute de la ville de Goma et celle de Bukavu?
La SAMI-RDC s'était déployée dans la perspective de soutenir Kinshasa. La réalité sur terrain s'est avérée tout autre et les risques de confrontation régionale ont poussé certains à réévaluer l'engagement. Et donc aujourd'hui, probablement, on ne va pas aller vers un engagement plus militaire. On va aller vers probablement une mission de sécurisation des populations, de mise en place de couloirs humanitaires et éventuellement d'accompagnement du CONOPS qui appelle à neutraliser les FDLR, mais également à sécuriser les civils. Je crois que cette mission va s'orienter vers cette solution qui est moins offensive plutôt que dans une logique de confrontation telle qu'elle l'avait développée avant la prise de Goma et de Bukavu. Bien évidemment, ça va se faire en concertation avec l'EAC et donc c'est une dynamique qui devient plus complexe parce qu'elle fait désormais appel à une convergence des deux organisations et elle risque de devenir très lourde dans la prise de décision.
Certains pays de la SADC ont exprimé déjà leur besoin de retirer leurs troupes de la RDC. D'autres sont devenus réticents. Vous ne pensez pas que ce climat risque de renforcer la méfiance entre la population congolaise et les troupes de la SADC?
Bon, comme je l'ai dit tantôt, le niveau d'engagement qu'il y a eu à Goma a dissuadé certains États, notamment le Malawi. En Afrique du Sud, aujourd'hui, il y a tout un débat sur l'avenir ou non de leur engagement au Congo. Pour l'opinion congolaise, ce sera peut-être une douche froide parce que les Congolais, en cette période de crise, ont besoin de la solidarité et cette solidarité n'est pas que diplomatique et verbale. La SADC, en tant qu'organisation, a également des mécanismes de sécurité collective. Et donc, les Congolais ont droit de revendiquer cette sécurité collective. Seulement, comme je l'ai dit, les risques de confrontation régionale, les degrés d'engagement qu'il y a eu à Goma a certainement influencé la perception de l'engagement de la SADC et il est très probable qu'on ait un engagement à minima. qui ne soit plus dans la logique militaire et qui travaille davantage à des solutions négociées, donc politiques.
Alors, quelle analyse faites-vous, monsieur Christian Moleka, de l'annonce de la présidence angolaise sur les négociations directes entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23?
Bon, déjà, ce n'est pas quelque chose de nouveau venant de l'Angola. Je le rappelle quand même, avant que le sommet de Luanda ne capote, le président angolais avait déjà tenté de ramener le M23 à la table de négociation. C'est que Kinshasa avait refusé à l'époque et qui avait conduit à l'échec du sommet du 15 décembre tripartite de Luanda. Le président angolais, qui a reçu le soutien du Conseil de sécurité, notamment avec la résolution 2773, est amené à organiser le pourparler avec toutes les parties prenantes, y compris les 1-23. Tels étaient les termes de la résolution. Et donc, à ce jour, le président angolais travaille à créer les conditions de cette négociation directe. Nous sommes dans une logique où, après la pression diplomatique sur le Rwanda, il y a une sorte de pression sur Kinshasa pour l'ouverture des négociations. Et je crois que Kinshasa a fait preuve de bonne foi, d'assouplissement, pour offrir cette possibilité des négociations avec les M23. Ce qui reste maintenant aujourd'hui, ce sera le format.
Alors, que répondez-vous à ceux qui craignent que les négociations ne soient pas sincères du fait que Kinshasa est amené des forces à la table des négociations?
Bon, les négociations, c'est un jeu, c'est toujours empreint d'hypocrisie, empreint d'agenda caché. Donc Kinshasa, malgré lui, est appelé à venir sur la table, malgré la raideur du président. La dynamique internationale et régionale, c'est celle de négocier. Et donc Kinshasa va y aller, d'autant plus que sur terrain, la dynamique militaire n'est pas favorable.
Monsieur Christian Moleka, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Pelé Kipela Mondo, à Richard Junior Kamunga et à Dieudonné Nyangasa. Bonne suite de programme sur Radio Kapi avec l'expertise de Baya Tchamala.